chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Dans le cadre de mon émission Bienvenue chez le roi, je vous propose une saga romantique dont je suis l'auteur. Dans les Lumières de l'amour, je vous entraîne à la cour de Louis XV avec le prince russe Victor Casbec et la duchesse Marie-Angélique de la Doucelle. Dans la précédente émission, à Saint-Pétersbourg, découragé par les refus de Marie-Angélique, Victor Casbec demande à Nina Beloselski de l'épouser sous une aurore boréale. Aux Ormeaux, on sentait à de petits détails presque futiles que le printemps serait bientôt là. C'était une certitude. Déjà, comme la fin de mars approchait, les giboulées avaient presque disparu. Un air plus léger, un soleil plus chaud, des oiseaux qui chantaient plus fort, une espèce d'émotion produisait sans raison des bouffées d'allégresse. Les Ormeaux revivaient. Les primes verts faisaient un tapis chatoyant sur la pelouse. On avait même entendu l'autre soir chanter le coucou dans les vieux chênes du parc. Marie-Angélique était choyée. Tout le monde s'occupait d'elle, nuit et jour. Les lingères paraient son lit de drap de lin et de dentelle tous les jours. Les femmes de ménage traquaient sans répit dans tous les coins du château la moindre poussière et le moindre mouton. En cuisine, on ne cessait de lui préparer les petits plats exquis qu'elle adorait. Son majordome et ses valets l'aidaient à faire le moindre pas, de peur qu'elle ne trébuche. D'ailleurs, depuis un mois, elle restait à l'étage, où on lui avait installé un petit salon et une salle à manger où elle prenait ses repas, sans avoir à descendre l'un ou l'autre des deux grands escaliers. Louisette l'aidait à prendre ses délicieux bains parfumés quotidiens dans sa baignoire de cuivre, la coiffer, l'habiller de jolies robes, celles que Madame Leroy avait agrandies, lui apporter de quoi écrire pour qu'elle pût correspondre avec ses nombreux amis. De quoi lire aussi, en faisant monter par les valets des rangées entières de livres de la bibliothèque pour qu'elle ne s'ennuyât pas un instant. Et lui rapporter fidèlement chaque matin, en revenant du marché, les nouvelles du domaine et du village d'Amenay en Champagne. Et puis, Émilienne était là, ne la quittant ni jour ni nuit. Le docteur Robert avait insisté pour que sa femme reste au château depuis le début du mois de mars. Son expérience de médecin de campagne le laissait penser, en effet, que la naissance des petits jumeaux n'attendrait pas le terme prévu. Et il comptait sur son épouse pour être là, au gazou.
Oh,
Après avoir battu la campagne toute la journée pour voir ses patients dans les environs, le docteur rentrait le soir au château où lui aussi avait élu domicile. Anne Augier de Maintenon était revenue pour passer les dernières semaines avant la naissance avec son amie. Elle le lui avait promis. Donc, chaque soir, le repas rassemblait le docteur Aubert et son épouse, Anne et la jeune duchesse. Caïphan et le deuxième Toussaint du domaine, qui, secondait Pierre le cuisinier, montait les plats du souper et les servait. Marie-Angélique avait fait préparer pour Anne la jolie chambre bleue près de la sienne et avait installé Jean et Émilienne Aubert dans la chambre jaune qui ouvrait au milieu de la grande galerie. D'autres chambres avaient été aménagées à l'étage, une pour les deux bébés et de chaque côté une autre pour chaque nourrice qui avait été choisie par le médecin dans les villages des environs. L'une à louer, l'autre à ruiler et qui n'attendaient qu'un signe pour accourir et prendre leur poste aux ormeaux. Jeanne et Suzon étaient venues plusieurs fois toutes les deux afin de rencontrer la duchesse, se familiariser avec l'endroit et mettre de l'ordre dans les trousseaux qui avaient été soigneusement préparés. Elles avaient été mises au courant des décisions qu'avait d'ores et déjà prises la duchesse, comme de nourrir ses enfants au lait maternel dans les premiers jours de leur naissance. C'était un conseil du docteur Aubert qu'elle s'était promis de suivre. De plus, d'autres dispositions encore plus inhabituelles étaient envisagées. Jean Aubert, redoutant que les enfants soient prématurés et donc d'un poids beaucoup plus faible qu'il ne l'aurait fallu, avait pensé à plusieurs solutions. D'abord, faire préparer des berceaux entièrement tapissés d'édredons en duvet d'oie, chauds et légers, pour les protéger du froid. Ensuite, la chambre qui avait été choisie bénéficiait du généreux soleil de l'après-midi et était dotée d'une grande cheminée dont on entretiendrait le feu jour et nuit, mais suffisamment aéré pour qu'il n'y ait pas de fumée dans la pièce. Thank you. faisant appel une fois de plus à son expérience de plusieurs décennies comme médecin de campagne, le docteur Aubert avait acheté à louer, chez des fermiers qu'il connaissait, deux dindes, toutes deux d'à peu près 8 ou 10 kilos chacune, avec beaucoup de plumes, qui s'étaient distinguées au sein de l'élevage comme des couveuses hors pair. Et il avait demandé à Pierre de les installer dans un poulailler improvisé dans l'arrière-cuisine. Il faut avouer que, pour qu'elles remplissent convenablement et tranquillement leur mission, on leur faisait manger des graines et des pâtés très alcoolisés, avec de la bonne eau-de-vie de fruits distillée dans la ferme voisine. Les bonnes bêtes dormaient donc toute la journée, sans bouger, affalées sur leur nid, et la fermière pouvait déposer sous leurs plumes étalées 2 ou 3 douzaines d'œufs à couver, les leurs certes, mais aussi des œufs de poule, d'oie ou de canne, desquels elle prenait grand soin. À plusieurs reprises déjà, à la suite de naissances difficiles de bébés beaucoup trop petits et délicats, il avait eu l'idée de se servir des belles volailles pour les réchauffer. Elles seraient donc installées au bout de chaque berceau et chaufferaient à la fois l'atmosphère et les petits. Lorsqu'il lui avait fait part de son projet, Marie-Angélique lui avait d'abord opposé un non catégorique. « Mais enfin, à quoi pensez-vous, Jean? Pourquoi pas une louve, comme Romulus et Rémus ?» Cela avait beaucoup amusé le médecin. « Ma chère, vos bébés ne seront pas nourris par les dindes, que je sache. Et puis cette méthode a déjà fait ses preuves, je vous l'assure. Vous imaginez bien que je ne prendrai aucun risque pour vos enfants. » Pour finir, elle s'était laissée convaincre et on avait déjà fait l'essai sur l'un des berceaux pour voir ce que cela donnait. Elle avait dû reconnaître, tout comme les futures nourrices qui assistaient à l'expérience, que la chaleur dégagée par les dindes était très prometteuse. Alors, on leur avait même donné un nom à chacune, Germaine et Gertrude. La soirée était fraîche. Un grand feu était allumé dans la chambre du premier étage qui avait été transformée en salon. Installée devant la cheminée dans de confortables bergères, Anne, Marie-Angélique et Émilienne devisaient agréablement. Anne leur racontait avec force détail la soirée qu'elle avait passée à Versailles chez Madame de Pompadour avec le roi. Le docteur Aubert arriva un peu tard et les pria de l'excuser. Il avait dû aller soigner une très vieille dame dans une ferme isolée. Elles l'accueillirent en souriant. On était le 1er avril et elles savaient que Jean aimait plaisanter. Depuis Charles IX, il était de bon ton de faire des farces ce jour-là. Mais ce soir, rien de tel. Il regardait Marie-Angélique avec un air soucieux. « Je vous trouve très fatiguée, vraiment. Voulez-vous que nous soupions maintenant pour que vous puissiez vous retirer de tôt ?»« Je n'ai pas faim du tout et je crois que je vais aller dans ma chambre maintenant. Vous avez raison, je me sens très lasse. » « Bonsoir, chers amis, » ajouta-t-elle en quittant la pièce avec Louisette. Les autres se regardèrent et pensèrent en même temps que les petits ducs, comme ils appelaient les bébés, n'allaient certainement pas tarder à montrer leur joli petit nez. Thank you. 6h du matin, 2 avril 1757. Il fait encore nuit. Le château tout entier dort. Et pourtant, non, pas tout à fait. Marie-Angélique vient de se réveiller. Elle allume la chandelle qui se trouve sur la petite table près de son lit. Elle le sait, elle le sent, ses petits viennent au monde. Les portes des chambres sont grandes ouvertes sur la galerie. Un petit gémissement et tous accourent, et courent dans tous les sens. On se précipite, on appelle les domestiques, bref, on s'affole. Le médecin, en robe de chambre et bonnet de nuit, calme tout le monde. Je suis là, je m'occupe de tout, Émilienne, viens avec moi. Anne s'est précipitée dans la chambre de son amie et lui tient la main. Elle veut être la première à voir les bébés. Jean-Aubert fait préparer un grand bain très chaud dans le cabinet des bains où Louisette, aidée d'Émilienne, emmène Marie-Angélique. Cela va vous détendre, l'eau parfumée est souveraine et apaise toutes les tensions. Effectivement, elle se glisse dans l'eau, elle trouve ça vraiment très agréable. Puis elle respire son eau de Cologne à plein poumon en savourant l'ivresse légère qu'elle ressent. 6h du soir, la nuit tombe. Sur le château des Ormeaux, Marie-Angélique est dans sa chambre, confortablement installée dans son lit, ses boucles blondes étalées sur ses oreillers de dentelle. Jean-Aubert est près d'elle, Émilienne aussi. Anne est assise au bout du lit. Louisette passe la tête par la porte entrouverte. Alésia et Katina aussi. Jeanne et Suzon, les nourrices, se tiennent un peu en retrait près de la coiffeuse, des langes dans la main. La jeune duchesse pleure de joie. Elle tient dans ses bras, enroulés dans des laines blanches, ses deux enfants, petits mais magnifiques. Le médecin a été formel. Prématurés, nés à presque 32 semaines, ils devront faire tous les deux l'objet de soins attentifs. Mais ils vont bien. Et après les avoir examinés sous toutes les coutures et les avoir remués dans tous les sens, juste après leur naissance, sans s'émouvoir de leur cri strident, il a annoncé à Marie-Angélique que ses jumeaux étaient superbes. Jean-Aubert, en praticien scrupuleux, avait relu très attentivement le guide des accoucheurs que son confrère Ménard avait fait paraître en 1753. Mais tout s'était passé sans problème, sans qu'une césarienne qui se pratiquait plus couramment désormais soit nécessaire. Anne s'impatienta. « Mais enfin, arrêtez de pleurer, c'est un grand jour !» Marie-Angélique sourit à travers ses larmes. « Si vous saviez tous combien je suis heureuse, merci, merci, merci !» l'interrompit. « Ma chère, vous avez été très courageuse et je suis très fière de vous. Allez, foin d'émotion, dites-nous plutôt les prénoms que vous avez choisis pour les petits ducs. » Elle regarda tendrement les deux tout-petits, lovés dans le creux de ses bras. Cette petite fille, qui est née la première, avec ses cheveux noirs et ses yeux violets, ce sera Magdeleine. « Cher Jean, approchez-vous de moi, je vous prie. » Le médecin vint près de la duchesse. « Tenez, prenez-la dans vos bras, dit-elle en la lui tendant. Voulez-vous être son parrain ?» Il prit la petite Magdeleine avec précaution, très ému par cette demande. « Marie-Angélique, votre demande me touche infiniment. J'accepte cet honneur avec bonheur. » La jeune femme poursuivit en regardant Anne, toujours assise au pied du lit. « Et vous, mon ami, si vous le voulez bien, vous serez la marraine de Louis, le nouveau duc de la Doucelle. » Anne, les larmes aux yeux, prit le nouveau-né qui avait sur sa tête, en guise de cheveux, un duvet tout blond et des yeux aussi bleus que ceux de sa mère. « Marie-Angélique, vous me comblez, dit-elle en le serrant contre elle. Et redites-moi encore qui a accepté d'être le parrain de cet enfant, ajouta-t-elle taquine. Eh bien, mais c'est le roi. D'ailleurs, il faut que je lui écrive tout de suite pour lui annoncer la double bonne nouvelle. » Tous se récrièrent. « Nous pensons que peut-être cela peut attendre demain matin. » Jeanne s'empara de Louis avec autorité et Suzon de Magdeleine, et toutes deux les emportèrent dans leur chambre pour les déposer dans les berceaux, dans lesquels les dindes, déjà installées, toutes plumes dehors, répandaient autour d'elles une douce chaleur. Tandis qu'elle berçait doucement les petits, Katina raviva le feu de la cheminée. La chambre était très chaude et les deux nourrices firent installer leur lit tout près des berceaux. Puis elles descendirent souper, l'une après l'autre, dans la salle commune près de la cuisine où Pierre les attendait avec de bons plats, bien roboratifs. Tous les domestiques, très heureux pour leur maîtresse à qui ils étaient très attachés, commentaient l'événement en le fêtant comme il convenait grâce au pichet de vin que leur servait Pierre. Le médecin se fit très exigeant. « Ma chère, vous êtes épuisée. Reposez-vous maintenant, il faut que vous dormiez. » Marie-Angélique s'endormit, un sourire sur les lèvres, en pensant à Louis, qui avait maintenant les héritiers qu'il avait tellement souhaités. Et à Victor aussi, qu'elle imaginait là-bas, si loin, perdu dans ses glaces, et à qui elle devait son bonheur de ce soir. Dans un soupir, elle rêva à l'avenir merveilleux qui attendait ses enfants et au chemin bordé de roses qu'ils emprunteraient tous les deux. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour la suite de ma saga Les Lumières de l'amour sur les ondes de Radio Grand Ciel. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur mon email personnel france.guimard.roche@gmail.com.